Bonjour, vous êtes bien sur Radio Campus Kikinkou, le magazine de la moto et des motards, tous les dimanches de 11h à 12h30. Nous sommes aujourd'hui le dernier week-end du mois de janvier et nous recevons notre motard en or, Papate. Bonjour Papate, comment tu vas bien ?
Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bah, ça va, chaque fois que je suis dans le studio, c'est parfait.
C'est formidable. Donc aujourd'hui, tu nous proposes une émission avec des sujets, on va dire, variés, voire éclectiques, si je puis me permettre, puisqu'on va, bien entendu, surtout avec des sujets, bien sûr, concernant la moto et les motards. Et on va d'abord parler des journées des chemins avec Charles Péot.
Tout à fait. Si vous avez déjà été curieux de ce qui pouvait se passer dans les mois à venir, qui est répertorié dans notre calendrier des motoclubs, page 25, vous avez dû tomber sur un événement qui va effectivement se dérouler de fin mars, février à début mars, et donc qui est organisé, donc auquel se rattachent plusieurs fédérations.
De motards, notamment.
Et notamment motardes.
Mais il y a aussi des cavaliers, j'ai vu.
Oui, des vététistes. Il y a de plus en plus de personnes se mobilisent pour le.
C'est pour préserver, voilà. Et c'est pour préserver les chemins. Alors, soit les débroussailler, soit les nettoyer, ou les nettoyer quand ils sont.
Tout ça, en fait, c'est un événement solidaire, qui est organisé par le collectif des défenseurs des loisirs verts, qui est le Code Vert. Et c'est son directeur, Charles Péot, qui va nous
en parler tout à l'heure.
Les infos.
Alors, j'ai vu rapidement, j'ai regardé. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce sont des bénévoles qui viennent de toutes les obédiences, j'ai envie de dire. Donc, à la fois la moto, le 4x4, le cheval, le vélo. Et c'est aussi, l'occasion de mieux faire connaissance entre les différentes discipline, et je trouve que l'idée est intéressante, surtout quand tu sais que parfois, les problèmes qu'on peut avoir quand on fait du chemin, quoi.
Tout à fait, et je crois que Charles va nous donner beaucoup plus de détails encore, mais l'esprit, je pense, vraiment de l'association, la solidarité, le partage, et puis effectivement la découverte.
Formidable. Ensuite, donc, t'es pas venu seul aujourd'hui, t'es venu avec ton, j'essaie de bien le dire, ton acolyte. Oui, j'ai bien dit là.
Oui, parce que effectivement, heureusement que je ne suis pas toute seule.
Non, ça. Jeff, t'es pas tout seul. Non.
Voilà, tout à fait. Voilà. Et que la richesse du sommaire, on va la devoir aussi à Yves qui nous a préparé.
Notre ami motard lecteur, voilà. Exactement. Yves. Bonjour Yves.
Bon, bonjour. Aujourd'hui, ça va être, j'espère, un grand jour. On va pouvoir interviewer Bruno Gillet qui a écrit et qui a produit deux livres qu'il a fait imprimer lui-même sur les anecdotes et puis les confidences et les pitreries du paddock, toutes les petites histoires du paddock un petit peu. Et sur tous les 40 ans de carrière qu'il a eu en suivant tous les grands prix, les courses moto à travers toute l'Europe. Alors ça commence au temps du Barnum, ça commence au temps du cheval de fer un petit peu, et puis ça va aller jusqu'à 2017 où il s'est arrêté il s'est pas arrêté, il a arrêté donc sa collaboration avec
Motojournal
pour prendre sa retraite, mais il n'est pas à la retraite vraiment, il continue à écrire et donc à faire des jolies histoires, à écrire vraiment l'histoire des pilotes moto dans le Youngtimer. Si vous voulez le retrouver, vous regardez le Youngtimer, et puis c'est bien écrit, donc c'est vraiment une mine, c'est une mine d'or, et maintenant il fédère aussi tous les gens qui ont participé à ces courses, qui lui renvoient aussi des anecdotes. Voilà.
Donc on l'aura au téléphone.
Il
pourra nous parler de son œuvre. On peut en parler, on peut dire une œuvre.
Oui, on va parler un petit peu de comment il en est venu là, de ce qu'il a fait, un petit peu de l'ambiance. On va un petit peu détailler un petit peu certains sujets des bouquins. Et puis après, on va terminer peut-être un petit peu sur les évolutions qu'on a en GP maintenant. Enfin, qui ne va plus être GP, quoi, vu que ça va changer. C'est la F1 qui va reprendre tout ça maintenant.
Ok, moi par contre je vais vous parler moto, je devais le faire la semaine dernière, j'ai pas eu le temps, donc comme j'avais promis, je le fais aujourd'hui, donc je vais vous parler d'une moto chinoise, Eh oui, c'est la première fois que je roule sur une moto chinoise, la Vosges 900. Eh ben voilà, et je vais vous en parler parce que j'ai été bluffé. Si on a le temps, on parlera aussi, parce que je me souviens c'était le mois dernier, je crois, hein, c'est ça Yves ?
Séance précédente.
Ouais, on avait parlé donc des frères Onmivar, c'est ça, j'ai bien dit, Onmivar. Oui. Et qui avait fait donc un tour en Afrique, en Arabie.
Qui ont fait le tour du monde.
Le tour du monde, voilà.
Le tour du monde dans les années, fin des années 50, début des années 60.
À l'époque de la décolonisation.
Avec des matchless.
Voilà, c'est ça,
ouais. Oui.
Et donc, si on a le temps, on reviendra sur ce magnifique ouvrage.
Oui, pour leur dernière partie de voyage qu'ils avaient fait en Afrique. Donc, avec pas une moto cette fois-ci, mais une 2 chevaux Citroën.
Ah, c'est un peu de chez nous quand même.
Oui, exactement.
Voilà, et on citera donc à la technique et à la programmation musicale, Monsieur Laurent.
We'll be right back.
Vous êtes bien sur Radio Campus, Kikinkou, le magazine des motards et de la moto. Nous sommes avec Charles P.O. au téléphone, directeur de Côte-de-Vert, qui va nous parler des journées des chemins. Charles, tu es avec nous ?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui. Bonjour Charles, merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler justement de cet événement qui va se dérouler du 28 février au 8 mars. Et donc pour nos auditeurs, ils vont pouvoir retrouver cette annonce dans notre calendrier. Mais c'était juste un petit résumé et on est trop heureux de pouvoir avoir davantage de détails grâce à toi sur cet événement.
Ok, merci.
Donc, 32e journée auquel s'associent quand même pas mal de fédérations, en particulier en ce qui nous concerne des fédérations motardes, mais aussi qui est un événement solidaire et où motards, vététistes, etc., tu vas pouvoir plus détailler. Mais qu'est-ce qui a été à l'origine de cet événement ? 32e édition, c'est quand même très conséquent. Et actuellement, c'est vrai qu'il y a une plus grande visibilité, mais en amont, comment ça a démarré ? Est-ce que tu peux nous le préciser ?
Alors, en fait, les journées des chemins, elles sont nées de deux constats. Le premier constat, c'est que les chemins ruraux disparaissaient énormément déjà dans les années 70, 80 et début des années 90. Du fait de plusieurs facteurs. Hein. D'abord, ça a commencé après-guerre avec la mécanisation de l'agriculture. Il y a eu des tracteurs de plus en plus gros, donc les anciens chemins creux trop étroits ont disparu faute d'utilisation. On avait aussi et on a toujours les accaparements par les riverains, les remembrements, les travaux routiers, le manque d'entretien. Donc tout ça faisait que les chemins, on a perdu des centaines de milliers de kilomètres de chemin depuis en gros les années 50-60. Et puis le deuxième facteur, c'est que il y avait à l'époque beaucoup de clubs 4x4 et moto. Bon, le VTT n'était pas encore vraiment arrivé en France. Beaucoup de clubs 4x4 et moto qui pour organiser leurs balades dans les chemins, les entretenaient. Voilà, ils les débroussaillaient tout au long de l'année. Et ça ne se voyait pas. Voilà, c'était les gens peuvent se dire tiens, le chemin a été entretenu. Souvent ils pensent c'est la commune, mais parfois c'était les motards du coin qui avaient pris un peu de leur temps libre et retroussaient leurs manches. Et donc de ces deux constats, on s'est dit un, d'abord, les chemins ruraux, c'est important de les conserver parce que s'il n'y a pas de chemin ruraux, il n'y a pas de randonnée. Et puis deux, faut montrer que les utilisateurs de ces chemins, les utilisateurs loisirs, et notamment ceux qui étaient montrés du doigt à l'époque, puis encore aujourd'hui, faut le dire, participent à éviter que ces chemins disparaissent. Et donc, voilà, le concept Journée des chemins, il est né comme ça, en disant, on va inviter nos clubs adhérents à organiser des chantiers bénévoles, des chantiers participatifs. Pour ouvrir et entretenir ces chemins ruraux, mais surtout, à l'époque, c'était même la journée des chemins, c'était une seule journée. Et c'était de rassembler un maximum de chantiers sur une seule journée pour pouvoir la médiatiser et montrer au grand public tout ce travail bénévole qui était fait, voilà, et son importance pour pouvoir continuer à randonner. Voilà comment sont nées les journées des chemins.
Et à partir de ce constat et de ce concept qui est né à partir de là, ça s'est vraiment structuré au fil des années et avec cette association Côte-de-Vert.
Oui, alors les premières années ont été très très suivies. D'ailleurs, les Journées des Chemins ont donné des idées à d'autres. Hein, on a eu notamment l'année suivante ou deux ans après, le nettoyage du printemps, qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'était en fait le ministère de l'écologie de l'époque qui nous avait piqué l'idée, quoi. Et puis, il y a aussi des entreprises privées de commerce, dont je ne citerai pas le nom pour ne pas leur faire de publicité, mais qui ont aussi repris ce concept, au fil des années, donc les chasseurs aussi. Donc déjà, bon. Si l'idée est copiée, en général, c'est qu'elle est plutôt bonne. Mais nous, bon, Côte-des-Verts, on a la promotion de cet événement, on le fait sur nos propres deniers. Hein, on n'a aucune subvention publique Pour cela, on a pas de sponsor non plus. Et donc, au fil des années, on a essayé de structurer l'événement, notamment au niveau de la communication, mais avec nos moyens, qui sont pas très élevés. Donc, ce qui explique que, à certaines périodes, on a peu entendu parler de cette opération dans les médias, et puis à d'autres, un peu plus. Et bon, ces dernières années, les chemins ruraux sont vraiment devenus un enjeu. On en parle, les médias en parlent beaucoup plus. Alors, c'est aussi un peu grâce à nous, parce qu'on pousse justement pour parler du problème de leur disparition. Et il se trouve qu'on a réussi à mettre plus de moyens dans cette médiatisation. Et on est allé plus au charbon aussi du côté des parlementaires pour essayer de faire évoluer la législation pour mieux protéger ces chemins, hein, qui à l'heure actuelle continuent à disparaître, notamment du fait des accaparements. Et voilà, donc depuis notamment le 30e anniversaire qui a eu lieu en 2024, on a vraiment mis beaucoup plus de moyens. Et voilà, ça explique depuis 3 ans, on a quand même une couverture médiatique bien plus importante, on a un nombre de chantiers en hausse. Et on espère que ça va continuer. Hein. On espère bien avoir au moins 100 chantiers cette année. Et j'en profite, hein, je vous remercie, parce que vous, en nous donnant la parole, vous aidez aussi à faire connaître cette opération dans votre région. Et c'est super, quoi.
Mais il existe, je dirais pas un flou, mais c'est compliqué, hein, de pouvoir se repérer, savoir ce que peut être ce chemin, si c'est un chemin communal, si c'est une voie privée, etc. Côte de Vert a cet avantage que d'abord il est ouvert à tous, hein, tout le monde peut solliciter l'association. Après tu nous expliqueras, hein, la possibilité d'adhérer et de soutenir, de renforcer l'association, mais ne serait-ce que en allant sur le site, la façon dont par exemple les choses sont repérées, résumées, comme les 5 étapes que vous proposez pour tout à chacun, c'est vraiment très très clair et ça parle. Et je pense que c'est très important de nous aider comme ça à prendre conscience que justement en tant que personne on peut avoir un impact sur justement cette action, hein, pour sauver ces chemins, parce qu'on pourrait penser que c'est très très loin de nous.
Alors oui, effectivement, c'est facile de participer. Voilà, il suffit d'avoir une paire de gants, des bonnes chaussures pour aller crapahuter, et puis pourquoi pas une serpette, une petite scie à main, un sécateur. Voilà, pour les plus équipés, ça va être une tronçonneuse, une débroussailleuse thermique. Mais voilà, sinon, surtout, il faut quoi ? Il faut de la bonne volonté et quelques heures de son temps. Alors là, c'est sur un chantier, par exemple. Après, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que, enfin, je l'ai dit indirectement, mais ces chantiers-là, ils visent à encore une fois, à montrer ce qui se fait tout au long de l'année. Parce que on a parfois des clubs qui nous disent, bah oui, mais moi, je ne vais pas organiser un chantier spécifiquement pour votre opération. Nous, on entretient les chemins toute l'année. Voilà. Et ce qu'on leur répond, c'est, ah oui, d'accord, mais qui le voit ? Qui le sait ? Voilà. Et nous, l'idée, c'est de mettre vos bonnes actions en avant. Et je voudrais revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu dis le Code des Verts, c'est ouvert à tous. Et effectivement, alors on ne l'a pas dit au début, mais Code des Verts, ça veut dire, c'est l'acronyme de Collectif de Défense des Loisirs Verts. Alors, loisirs verts, aujourd'hui, les plus jeunes, ça les interpelle peut-être un peu, c'est quoi les loisirs verts ? Aujourd'hui, on parle des sports de nature. À l'époque, à la fin des années 80, je rappelle que le Code des Verts est né en 87, on parlait des loisirs verts. Voilà. Donc, et on a toujours voulu défendre la pratique de tous les loisirs verts, donc tous les sports de nature terrestre. On n'a jamais fait de discrimination. Alors, par la force des choses, on a beaucoup d'adhérents motorisés parce que ce sont les activités qui sont le plus stigmatisées dans leur pratique. Mais ces dernières années, on s'aperçoit qu'on a quand même de plus en plus d'adhérents vététistes ou cavaliers ou même marcheurs. Parce que soit ils commencent à vivre aussi des difficultés pour pratiquer leur sport, ou pour organiser des randonnées ou des épreuves sportives, ou bien parce que le sujet chemins ruraux, ça les intéresse. C'est le dénominateur commun, qu'on soit marcheur, vététiste, cavalier, motard, quadeur, 4x4, bientôt adepte de la trottinette électrique tout terrain, parce que ça existe, le dénominateur commun de tous ces sports, c'est le chemin rural. Voilà. Et donc c'est ça aussi l'esprit des Journées des Chemins et du Code des Verts. Notre credo, c'est rassembler les utilisateurs et partager en bonne intelligence. Voilà, c'est ça le credo de notre credo depuis maintenant bientôt 40 ans, quoi.
Et si on veut adhérer, disons que l'engagement financier, il est assez modique pour justement pouvoir soutenir l'association. Après, il y a un choix qui est proposé, mais c'est à partir de 20 euros, c'est ça ?
Alors, il y a plusieurs formules. Alors, la formule, on va dire... il y a une formule qui est adaptée, qu'on appelle sympathisant, qui est adaptée à ceux qui pratiquent sans véhicule. Voilà. Pourquoi ? Parce que dans la formule supérieure, qui coûte quand même 60 euros, il faut le dire, on a intégré une protection juridique. Pourquoi une protection juridique ? Parce que lorsqu'on va se balader sur les chemins, il n'est pas impossible un jour d'être verbalisé, par exemple. Parce qu'on va vous dire, un agent de la police de l'environnement va vous arrêter, vous dire « Vous n'avez rien à faire sur ce chemin, vous n'avez rien à faire là, je vous verbalise. » Voilà. Et donc, cette protection juridique, elle sert à prendre en charge la défense de l'adhérent, et donc comme toute assurance, c'est un coût qu'on est obligé de répercuter dans l'adhésion. Donc voilà, donc on a quelques sympathisants, mais on a beaucoup d'adhérents, ce qu'on appelle militants, et voilà, et l'adhésion là est de 60 euros et un petit peu moins si on est déjà membre d'un club qui adhère au Code des Verts, parce que le Code des Verts, c'est un collectif, donc on peut y adhérer qu'on soit un particulier, un club, même une entreprise, voilà. Donc on accueille tout le monde.
Et à partir de là, les adhérents bénéficient, tu disais, d'une garantie de protection juridique, mais en plus, de par l'esprit, hein, je dirais, de l'association, il y a du guide de bonne conduite du départ, oui. Ou guide pratique, et puis maintenant ça s'ouvre aussi sur le géoportail, je veux dire qu'on va essayer de... Donc, comme le temps d'intervention est assez limité, on va essayer de faire vite. Mais c'est ça, allez voir sur le site parce que vous allez découvrir beaucoup de choses. Et je pense que ça va vous motiver aussi à vous mobiliser. Les rendez-vous, on va les dire dans l'année. Code des Verts va être au Salon du Deux Roues de Lyon, c'est ça ?
Oui.
Du 26 février au 1er mars. Après, il y a un événement que nous, on avait relayé déjà, mais qu'on n'avait pas rattaché au Code des Verts non plus, mais je veux dire, les rendez-vous dans l'année pour ceux qui aiment les sports, justement, de nature, c'est la March Moto Madness, du 27 mars au 29 mars à Dreux.
Oui, organisé par une entreprise adhérente du Code
voilà,
des Verts.
C'est ça, voilà. Donc, écoute Charles, on te souhaite énormément de visiteurs déjà à Lyon, à la possibilité de faire découvrir ce beau travail que Code des Verts fait tout au long de l'année.
Peut-être rappeler une adresse internet pour ceux qui voudraient en savoir plus, non ?
Oui, alors tout simplement codesverts.fr, et Code des Verts, ça s'écrit CODEVER.
Sinon, on peut aller aussi sur Journée des Chemins. .fr, oui. Je crois qu'il y a une adresse internet comme ça.
Oui, journée au pluriel, journeedeschemins.fr. Voilà, il y a une page, on a une page dédiée. Et voilà, juste pour terminer, je prends 20 secondes. Je voulais dire, on a parlé de juridique, mais le Code des Verts, tout au long de l'année, c'est en fait, on fait beaucoup d'interventions auprès des parlementaires pour essayer de faire évoluer la législation pour que les sports de nature puissent être pratiqués, continuer à être pratiqués librement, pour qu'on puisse continuer à accéder à la nature. Et puis pour essayer de mieux protéger les chemins ruraux.
Et juste pour conclure, je vais reprendre la phrase que j'ai trouvée en voyageant un petit peu sur tous les sites. La liberté doit redevenir la règle et l'interdiction l'exception.
Bravo. Tout à fait.
Bravo, merci.
Merci Charles.
Merci.
Un grand merci à vous.
À une prochaine.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Kick un coup, le magazine de la moto et des motards. Et aujourd'hui, on va parler encore moto et moto avec un spécialiste qui a écrit pour Moto Journal et qui continue pour Young Timer. C'est Bruno Gillet. Bonjour Bruno, t'es avec nous ?
Bonjour, bonjour à tous. J'aime bien l'intro avec le petit moteur de temps qui
est là. C'est sympa.
Bon, alors Bruno, on s'est parlé un petit peu au téléphone et puis je me suis enquillé tes deux bouquins. Et j'avoue, le premier, je me disais, pourvu que je m'ennuie pas, pourvu que ça va aller, mais bon, non, ça a été très bien, je l'ai en une journée, c'était fait. Donc déjà, c'est 200 bon pages, signe. 200 pages, oui, le deuxième, bon, j'ai retravaillé, j'ai pas fini le deuxième, hein, je suis presque à la fin, mais j'avoue, après, j'ai été regarder un petit peu à côté ce que t'avais fait, des références par rapport aux personnes que tu cites aussi, dont on connaît certains. Je sens que Bernard Faux était présent aux 40 ans des Kikinkou et c'est un de tes amis aussi, apparemment.
Je me souviens de ça, ouais.
Donc voilà, moi je suis très content de t'avoir au téléphone et puis on va parler un petit peu de tout ça. Tu as publié ces deux bouquins, donc tu les as publiés, c'est dans les coulisses de la course moto, et tu l'as fait publier par Amazon, et puis c'est vendu donc directement, on peut trouver sur Amazon, et le prix c'est 12 euros par tome, et ça marche très bien, on l'a assez vite. Entre guillemets, quand on regarde derrière un petit peu plus près, c'est Amazon, mais c'est imprimé en France par rapport à d'autres bouquins des fois où c'est imprimé en Turquie, tout ça.
Absolument.
Donc là, c'est surprenant, mais c'est comme ça. Et puis voilà. Donc,
alors, je me permets de te couper, c'est surprenant, oui et non, parce qu'en fait, ils sont toujours imprimés dans le pays en question. C'est-à-dire que, par exemple, Vic Soussan, pour les plus anciens qui habitent en Australie, ou Jean-Louis Vignabonnet qui est au Canada, tous ces gens-là ont acheté mes bouquins. Et ils sont imprimés sur place, parce que j'ai la photo même au Mexique, en Thaïlande, ils sont imprimés sur place, parce que je leur ai demandé de m'envoyer la photo de l'avant-dernière page de couverture, et donc ils font travailler des imprimeries locales, et également des distributeurs locaux, c'est un Amazon qui distribue, en France c'est Chronopost. Oui. Et donc voilà, j'ai fait le premier tome qui a très bien marché, les lecteurs me disaient on veut un tome 2, alors évidemment ça me motive, et le tome 1 est sorti il y a un an et le tome 2 vient de sortir.
Voilà. Eh ben Bruno, j'aimerais bien c'est qu'on commence par parler de toi un petit peu. Parce que bon, voilà, les Kikinkou, je dirais des vieux motards. Beaucoup.
Ouais. J'en suis.
Ça serait lui, bah, même à peu près les mêmes générations. Un peu plus jeune pour moi. T'es un peu un grand frère, quoi. Et puis, j'aimerais bien savoir, tout d'abord, on va parler de toi, et j'aimerais bien savoir que tu nous racontes comment tu es venu à la moto, et pourquoi tu es venu à la moto. Parce qu'en fin de compte, après, tu n'as plus lâché, quoi.
C'est exactement ça, ouais. D'ailleurs, quand j'étais petit, je lisais le Moto Journal, mon père me disait, c'est pas comme ça que ça ne t'aidera pas un bistec dans l'assiette. Bah, il s'est trompé, puisque j'ai fait 40 ans, 37 ans salarié à Moto Journal, et je continue, d'ailleurs, pour me Young Timer en moto comme journaliste. Et pour le Moto Journal, d'ailleurs, dans le Moto Journal actuellement en kiosque, il y a une interview de 6 pages d'Hervé Vancharal que j'ai faite. Et la moto, en vérité, moi, je ne suis pas venu à la moto par la passion de la vitesse comme beaucoup, c'est parce que j'avais envie de cette confrérie. Ce qui me fascinait quand j'étais envoyé dans la 404 de mon père, c'est de voir les motards qui saluaient, qui s'arrêtaient, qui se dépannaient, qui discutaient, qui se tutoyaient, qui s'invitaient chez eux, qui roulaient ensemble. J'avais envie de me faire une grande famille comme ça. Et c'est une famille qui m'a plu, puisque voilà, je parle de ça, j'avais 14 ans et j'en ai 68 et je suis toujours dans le grand monde de la moto et des motards.
Et ta première moto, c'était quoi ?
Alors, comme j'avais évidemment mon père était anti-moto, il trouvait ça dangereux et voilà, ça fait également quelque chose qu'avec le recul on peut entendre, j'ai pas du tout eu la possibilité de m'acheter, d'avoir une 125. Ma première moto, ça a été une 400 R2. Il a fallu attendre que je sois majeur et que j'ai gagné assez d'argent pendant mes jobs d'été pour m'acheter une Yamaha 400 RD en 77.
D'accord. Donc, tu rapportes dans ton bouquin les anecdotes concernant ta rencontre avec Patrick Ponce. Et qui deviendra ton premier patron. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette histoire, en fin de compte ? Parce que c'est ce qui t'a vraiment mis pied à l'étrier, quoi.
C'est vrai. Ben, il se trouve que j'étais étudiant à Dijon et que Patrick Pons est champion du monde en 79. Et moi, j'avais une Yamaha parce que j'étais fan de Patrick Pons et de Kenny Roberts, donc déjà passionné par la course moto. On en revient à mon livre dans les coulisses de la course moto. Et je me dis que je vais aller le féliciter. Très naïf, finalement. Et puis, des fois, ça pousse des portes. Donc, je quitte ma 400RV, je monte à Paris, j'arrive à la Grande Armée, la place d'étoiles, je rentre dans le magasin Yamaha, et je dis bonjour, et vous voulez quoi? Ben, je voudrais féliciter Patrick Pons. Et là, un grand gars me regarde avec des yeux ronds. C'était l'associé de Patrick Pons. Il n'est pas là, Patrick Pons. En fait, Patrick Pons, après, quand j'y ai travaillé, il y était très peu. Il avait un bureau, mais il y était très peu. Et on s'est mis à discuter. Et il m'a embauché comme vendeur moto. Je me suis retrouvé comme ça, vendeur moto du premier magasin Yamaha en France, hein, parce que ça vendait beaucoup là-bas. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et après, j'ai pu féliciter Patrick Pons, puisque je l'ai connu, parce qu'il était quand même de temps en temps.
Et donc t'as quitté ta province pour arriver sur Paris. Et c'était comment la vie à Paris pour un jeune motard? Et en plus, moi, je me demande, quand tu travailles chez Yamaha, tu vas rencontrer d'autres pilotes, des gens qui sont vraiment dans la compétition. Et il n'y avait pas un genre de... Enfin, c'était pas un petit peu une pouponnière à pilotes, ça, ces magasins et ces mécanos?
Tout à fait. Tout à fait. Alors, tu dis, c'était comment Paris quand t'es motard? Déjà, il y avait Bastille le vendredi soir, qui était rendu un incontournable. On y était, on discutait de moto, etc., etc. Et quand ce qui concerne la course, évidemment, Patrick Pons était le leader de tous les pilotes français à l'époque, qui est champion du monde en 79. Malheureusement, il s'est tué en août 80. Il y avait même un fan club Patrick Pons, qui avait des pilotes comme Didier Doradiguez, et surtout beaucoup de pilotes passaient voir Patrick parce que pour avoir des conseils, pour le saluer. Alors, tout le monde. Tous les pilotes, Olivier Chevalier, Raymond Roche, tout un tas de pilotes, Marc Fontan, beaucoup de pilotes qui passaient par là. Et évidemment, le week-end, je suivais Patrick Pons avec ma moto, je suivais les courses où, quand elles n'étaient pas trop loin, où je pouvais aller voir Patrick rouler, Pons rouler. Et voilà, donc je suis tranquillement entré dans le milieu où tout au moins j'ai commencé à bien les connaître. Et ça, c'était vachement sympa. Ouais.
D'accord, donc t'es vendeur dans le magasin. Et oui. J'ai deux questions presque. Pourquoi t'es passé du métier de vendeur au journaliste? Comment ça s'est fait? Et pourquoi t'es pas passé non plus du côté mécano, compétition, des choses comme ça? Ou t'as essayé?
Non, pas du tout. Non, en fait, au bout d'un an, je me suis. D'abord, j'étais très mauvais en commerce, moi. C'est-à-dire que vendre une moto plus chère que. Chaque fois, les motards, j'avais envie de leur vendre les casques prix coûtant et compagnie. Je suis très mauvais pour gagner de l'argent. Donc, je n'étais pas fait pour le commerce. Par contre, j'ai toujours aimé écrire. Et puis, mécano, non. Je connais la technique des motos, mais je n'ai jamais été mécano. Et alors, je suis allé trouver Motojournal et je me suis dit, moi, il y a un truc que je sais, c'est que j'aime écrire. J'ai toujours eu, sans prétention, des très bons résultats à l'époque, à l'école, au collège, en dissertation, etc. Même, j'ai 16 sur 20 en philo au bac. Donc, j'étais vraiment sur l'écrit. Je ne me jette pas des fleurs, mais c'était vraiment la seule passion, l'écrit et la passion de la moto. Donc j'ai dit comment lier les deux, et en plus j'étais fan de Motojournal, du ton Motojournal qui était un peu irrévérencieux, qui était très libre. Il faut savoir que Motojournal était créé en 71, et par rapport à Motorevue qui était là depuis très longtemps, en l'espace d'un an, Motojournal a dépassé en vente Motorevue. Donc je connaissais aussi les journalistes parce qu'ils venaient souvent chez Patrick Pons pour faire des interviews pour le ci, pour le là, parce que c'était un peu le bras droit de Sonoto avec la concession. Donc j'avais commencé à bien connaître des gens comme ça. Et je me suis pointé chez Motojournal. Et le hasard a fait que 8 jours avant que j'arrive à Motojournal, Philippe Barret, qui était le reporter sur les Grands Prix, avait démissionné parce qu'il partait chez Pernod d'ailleurs, qui avait une moto de course pour faire la communication. Et j'ai été embauché pour les Grands Prix début 82 directement, sans même faire une course de championnat de France, reporter Grand Prix pour le premier journal moto de France.
Donc tu vas voyager, quoi?
Alors bien sûr, beaucoup de voyages, oui, beaucoup de voyages à travers le monde, comme on fait un peu partout. Alors à l'époque, j'avais surtout l'Europe, et puis on le voit maintenant, il y a énormément de courses au-delà de l'Europe, dans tous les continents.
D'accord. Et dans quelles conditions alors ça se faisait tout ça? Parce que tout début, moi je pense au film de Bernard Faux, un petit peu Cheval de Fer, et puis on voit les conditions des Grands Prix. Tu faisais partie de la caravane du cirque.
Absolument.
Exactement. Absolument. Tu voyages dans les mêmes conditions?
Oui, oui. Non, nous, on y allait en avion, parce que sinon, c'était trop long. On y allait en avion, parce qu'en plus, il fallait rentrer vite le dimanche soir, parce qu'il fallait boucler le journal, c'est-à-dire terminer le journal pour qu'il puisse partir à l'imprimerie, qu'il soit le jeudi matin en kiosque. Voilà, donc ça, il fallait vraiment faire vite. C'est d'ailleurs très compliqué quand on était en mauvais décalage horaire, c'est-à-dire sur l'Ouest, par exemple Daytona ou le Grand Prix du Brésil ou autre. Mais par contre, oui, on vivait vraiment avec eux. Voilà. On me demande souvent, alors qu'est-ce que tu préfères, l'ancienne période ou l'actuelle? Et je dis chaque fois, il y a des bons côtés dans les deux. Mais là, effectivement, à cette époque-là, on vivait tous ensemble dans le paddock. Le soir, il y avait des grandes tablées, on jouait au foot, il y en a un qui faisait un couscous, il y en a un qui prenait la guitare, tout le monde se parlait. Jusqu'à l'arrivée, on va dire, de Freddie Spencer, Kenny Roberts, qui avaient les gros motorhomes, qui eux vivaient un peu dans leur coin, et puis les gros sponsors cigarettiers, qui ont à la fois amené de la puissance financière, donc des très belles machines, mais qui ont un peu effectivement isolé les intervenants du paddock. Mais par exemple, quand tu dis la caravane, l'été 82. Motojournal ne paraissait pas au mois d'août, et ben je suis monté dans le camion atelier de Patrick Fernandez, qui était un pilote de 1,5-3,5 de notoriété, et j'ai fait le Grand Prix Angleterre Suède Finlande dans son camion atelier où je dormais, où je vis avec lui et son mécanicien, où je faisais la vaisselle, où je voilà. Et donc c'est vraiment avec eux, quoi. Donc ça c'est magique, ça c'est évidemment quand tu sors de ta boutique, et moi j'avais pas envie de rester derrière, je me suis dit bon, une boutique c'est bien, et c'est bien qu'il y en ait, je crache pas dessus, hein. Mais moi j'étais pas fait pour ça, quoi. Refaire ma vitrine et à compter ma caisse, et d'un seul coup là, voilà, c'est ça dont j'avais envie, c'était tailler la route et puis découvrir cet univers peuplé de gens. Les pilotes, il y a tellement de choses à en dire, il y a tellement de choses à écrire, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans le livre, dans les coulisses de la course moto.
Ah bah c'est très bien, bah écoute, là on va finir la première partie et ça tombe tout pile, et donc tu introduis déjà la deuxième, et on va parler de ça un petit peu derrière, donc on passe un peu de musique et puis on se retrouve après pour parler du bouquin. Ça te va ?
Avec plaisir, avec Allez. Plaisir.
Ça, c'est du rock'n'roll sur Radio Campus Kick un coup, le magazine de la moto. On retrouve tout de suite Bruno Gillet pour son livre, j'allais dire ses livres. Est-ce qu'on peut dire que c'est le même livre avec un tome 1 et un tome 2 des coulisses de la course moto? Qu'est-ce que t'en penses, Bruno?
Absolument, absolument. Oui, ils sont sortis à un an d'intervalle. Comme je disais, il a eu un gros succès. En fait, l'origine de l'idée du livre, je l'ai eu avec Guy Coulon, qui a été pendant 40 ans le directeur technique de Tech 3, hein, qui est la plus grosse écurie qu'on a eue en France, de course, engagée en MotoGP. Et comme je suis ami avec lui et avec Hervé aussi, pour Charal, je suis souvent chez eux parce que j'ai un pied à terre là-bas. Et un soir, il racontait une petite anecdote. Et le soir, souvent, après avoir bossé dans son atelier, il raconte des petites anecdotes, on boit une bière. Et Guy, il est incroyable parce qu'il a une triple qualité. C'est que c'est un excellent conteur. Il n'est pas seulement doué à la clé à molette. Il est vraiment, il a un langage, il a des mots très choisis. Il a fait les trois disciplines qui nous ont intéressés depuis 40 ans, c'est-à-dire l'endurance, championnat du monde d'endurance, le Paris-Dakar et les Grands Prix. Et il a une mémoire d'éléphant. Et il racontait des anecdotes et je me suis dit, voilà, ben, tu sais quoi, Guy, on va faire ça. Et d'ailleurs, je le remercie au début du tome 1 parce que c'est lui qui m'a donné cette idée-là de faire un livre d'anecdotes sur la course moto.
Oui, donc on voit ça se présente donc sous forme d'anecdotes qui ont été collectées auprès de, que tu as enregistrées aussi d'ailleurs, je pense, durant ta carrière, et qui ont été collectées auprès des différents acteurs des Grands Prix.
C'est ça, et de l'endurance, il y a même un petit peu de Paris-Dakar, et ce sont des histoires, excuse-moi, mais je te coupe, mais des histoires très courtes, donc faciles à lire, parce que j'ai des copains qui m'ont dit, moi j'aime pas bien lire, mais là c'est vraiment des histoires qui font, d'anecdotes, qui font une page et demie maximum, donc ça se lit tout seul.
C'est ça, ça se lit tout seul, donc ça se présente comme ça, il y a à peu près une page, deux pages, j'allais dire, pour chaque anecdote, avec un petit trait d'humour, une petite citation, ou peut-être un petit... De temps en temps, c'est un peu humoristique quand même, oui, c'est un peu irrévérencieux, il faut que ce soit, ce qui permet de garder aussi l'attention du lecteur, et puis ça se lit tout seul. Alors, il n'y a pas vraiment de fil conducteur tout le long, enfin moi,
non,
j'en ai pas trouvé. Hein.
Non, elles sont distribuées vraiment au hasard, on passe du coq à l'âne, donc il peut y avoir des histoires drôles, humoristiques, après on peut tomber dans le tragique, après
aussi,
on tombe sur le cocasse, et donc j'ai fait témoigner, il y avait toutes les notes que j'avais moi, tous mes souvenirs, j'ai fait témoigner les pilotes, les mécaniciens on les interroge jamais, et ça ce sont des choses qu'on n'a pas trop le temps de faire quand on est journaliste à notre journal et qu'on fait, on revient avec la matière qu'on ramène pour le magazine, c'est vraiment le Grand Prix, c'est la course, c'est ce qui s'est passé, mais il y a tous ces à côté que j'ai voulu témoigner, et les mécaniciens par exemple, les managers, tous ces gens là sont une source étonnante de petites histoires.
Oui, ça c'est le côté que j'ai trouvé le plus intéressant, enfin ce qu'on connaît un peu le moins d'ailleurs. Et c'était justement toutes les anecdotes des mécaniciens, ce qui est cocasse, les trouvailles, les tricheries. Alors j'ai adoré les tricheries. Les tricheries, c'est pas mal. Hein, les réservoirs qui sont trop fins et que on pousse un peu d'essence, on arrive à mettre 2 litres de plus
par
rapport à la réglementation.
Voilà.
Il faut rouler avec un 3 cylindres, j'en ai que 2, je vais rajouter un cylindre d'avion, de modèle d'avion.
De modèle réduit, absolument.
De modèle réduit,
et
voilà, il y a 3 cylindres, oui, Laurent Chevalier.
Non,
exactement.
Il y en a des.
Le copain qui doit partir et il faudrait qu'il touche ses primes parce que bon, ouais, c'était vraiment tirer le diable par la queue. Donc, sa moto, il n'y a plus de vilebrequin. Enfin, il n'y a qu'un vilebrequin pour deux motos. On fait un demi vilebrequin, on enlève le piston, la bielle, et puis ça tourne sur une patte, mais c'est pas grave, ça tourne. Il peut prendre le départ, il a sa prime de départ. Il fait un
absolument,
tour.
Je ne sais
pas s'il a fait un tour d'ailleurs. Voilà.
Ça, c'est étonnant parce qu'aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte de ça, mais ça a vraiment existé. Et à l'époque, les pilotes comptaient sur leur prime de départ pour pouvoir avoir de quoi s'acheter de l'essence pour mettre dans leur camionnette, hein, le petit C35, pour pouvoir aller au Grand Prix d'après. Donc, d'une manière ou d'une autre, il fallait qu'ils prennent le départ. Il fallait d'abord pas qu'ils se blessent trop grave aux essais, il fallait qu'ils puissent au moins prendre le départ, même s'ils faisaient que 100 mètres. Et c'est comme ça que ça se passait. Donc, quand on voit les Grands Prix aujourd'hui sur Canal+, on a changé d'air complètement.
Oui, il y a aussi la solidarité. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Donc, je vais avoir un trou. Le pilote. En plus, t'as fait un article sur lui dans le New York Timer. Enfin, il y a quelques années, au moment où je le lisais plus souvent. Un gars très attachant qui...
Badi Hassen.
Oui, voilà, exactement.
Badi Hassen, le seul pilote algérien. Ah, oui,
rien que de décrire le caractère du gars, ça vient. Donc voilà. Donc, et on voit à ce moment-là que les concurrents, d'ailleurs, laissent leur prime de... Leur prime.
Tout le monde se serre les coudes. Ouais.
Pour qu'ils puissent continuer le voyage. Ou alors, ils récupèrent les vieux pneus. Les pneus des autres. Et, parce
les pneus de qualif, les pneus que des gens, excuse-moi, je te coupe, comme Nieto, c'était en 125, comme Nieto Lazzarini, qui était des pilotes numéro 1, utilisaient sur deux tours pour pouvoir faire se placer sur la grille de départ, faire leur tour qualif. Lui, il venait la nuit, par derrière, à plat ventre, par derrière le camion d'un lot, il allait chercher les pneus parce qu'il disait, pour moi c'était extraordinaire, j'ai gagné une seconde au tour. C'était des pneus qui avaient fait deux tours et des pneus de top qualité. Voilà, c'est comme ça que ça se passait.
Ou bien il y a une autre anecdote aussi où tu racontes que quelqu'un lui a laissé des pneus de qualif aussi, mais c'est des pneus pluie, il va courir sur du sec, mais comme c'est des pneus qui sont tout neufs, et ben il va faire une très bonne place, quoi.
Oui. non mais c'est vrai qu'il y a un tel décalage, ça paraît aujourd'hui invraisemblable, donc c'est sympa de témoigner de ça. Les anciens qui sont un peu de ma génération, ça leur rappelle tant de souvenirs. Et puis les jeunes, qui lisent ce livre, ils s'ouvrent les yeux ronds, parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas aujourd'hui.
Oui, on n'imagine pas. Ou alors on a des parents ou des grands-parents qui étaient déjà un peu la moto et on a un peu grandi.
Absolument.
Là-dedans, et voilà, on peut un peu grandir dans les histoires. Donc ça, c'est aussi. Mais c'est bien de pouvoir le résumer, c'est bien de pouvoir en reparler, quoi, parce que ça mérite
d'être cité. De laisser une trace. Et de laisser une trace comme ça, oui, je trouve que c'est bien, ouais, c'est une bonne idée.
Donc moi, j'ai aimé ça et j'ai pas mal aimé aussi les... Alors, il y a aussi... on parle des amitiés ou des inimitiés entre les pilotes et la concurrence et...
Oui.
Et des choses un peu célèbres aussi. Enfin, je pense que la presse est un peu là-dedans aussi. Mais pas que la presse, une certaine presse, quoi. Disons, on aime bien créer le drame et puis un petit peu le... Voilà, on va participer de ça, quoi. Donc on crée un petit peu les choses. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que il y a certaines pilotes qui étaient vraiment bon. Voilà, la course c'est la course, et sur la piste, je pense qu'avec l'adrénaline qu'on doit avoir, ça doit être difficile. Hein. C'est pas de se contrôler tout le temps, ça doit pas être évident. Et j'aimerais bien voir le commun des mortels, d'ailleurs, à des tels taux d'adrénaline, comment ils réagissent. Mais on voit un peu, par exemple, les histoires entre Kenny Roberts et Barry Sheen, c'est assez bien. Et c'est marrant parce que à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, c'était le moment de... C'était un peu... Il y avait un feuilleton qui parlait de ça. Donc, Lord Sinclair, et on avait le Lord anglais et puis l'Américain, Tony Curtis, qui était en concurrence, quoi. Hein, comme amicalement vôtre. Et on avait exactement la chose sur la piste aussi, quoi, quelque part. Hein. C'était vraiment les deux.
Et Roberts. Et ils étaient vraiment, vraiment concurrents au plus haut point, hein, comme l'ont été après, Rossi, Gaggi, voilà. Mais par contre, ils se respectaient beaucoup. Ils avaient beaucoup d'estime mutuelle. Et c'est vrai que Roberts a débarqué des USA sans connaître les Grands Prix et les circuits européens. Et Sheen, qui était deux fois champion du monde, il s'est fait battre trois fois de suite. Roberts a pris le titre en 500. Et puis, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que quand on reparle de ces années-là, quand je contacte les anciens pilotes, il y a une liberté de parole. Ça veut dire qu'à l'époque, il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas dire. Et maintenant, ils peuvent le dire, ils peuvent le raconter parce que, comme on dit, il y a prescription.
Oui, c'est ça.
Et donc, on découvre plein de choses, finalement, sur cette époque-là.
Surtout dans les petites histoires. Ça, c'est pas mal.
Oui, oui. D'où le titre,
oui, parce que vraiment, il y a des fois, ça plane un peu loin. Mais je me demande aussi, il y a des gens qui avaient aussi qui avaient un don aussi pour semer la zizanie aussi dans les écuries adverses, non ?
Oui, l'intox a toujours fonctionné. Hein. L'intox a toujours fonctionné. C'est genre, justement, Patrick Fernandez qui, sur la grille de départ, il regarde la moto de Baldé à côté parce qu'ils étaient très en concurrence. C'était les deux pilotes de moyenne cylindrée vraiment qui étaient au top, comme à un moment, Olivier Jacques, Régis Laconi, par exemple. Et il lui dit, t'as vu que tes deux roues, elles sont pas alignées, là? Il dit, de façon que soit vrai ou faux, tu sais qu'il sera pas en tête au premier virage, il va se poser des questions. Donc c'était vraiment la pure intox, quoi.
Oui, c'était...
Non, mais il y a pire que ça, il y a quand même, mais là, on remonte carrément dans les années 50, c'est George Monray qui, sur la grille de départ, en première ligne, regarde son concurrent numéro 1 à côté de lui et lui dit, alors c'est à l'arrivée qu'on bouffe ta cervelle, et hop, c'est le départ.
Oui, ça.
Donc ça met l'ambiance quand même.
C'était méchant, ça. Ça, c'était méchant. Mais j'en connais des amateurs, même des KAC qui étaient comme ça, un peu méchants sur le truc. Ils disent on va te bouffer ou des trucs comme ça, vu que.
Oui, oui.
Moi, je suis un peu un transfuge à notre club. Alors, j'ai eu des choses un peu comme ça sur la piste.
C'est que de la médisance.
Je vois. Non, mais même dans les courses de Solex, il y a de l'intox. Hein. De l'intox technique, de l'intox de course, de l'intox dans tout.
C'est vrai qu'on faisait des courses un peu avec tout. Hein. Il y avait des 8 heures de la mobilette ou des choses comme ça, des petites 125. Dès qu'il y avait un truc quelque part, on organisait quelque chose. Ça a drôlement changé. Comme tu dis, il y a eu les cigarettiers qui sont arrivés avec des moyens. Enfin, du moins des moyens. Il y a eu aussi... Et je pense que j'ai regardé un petit peu les reportages qu'il y avait eu sur Tech 3, donc qui était revendu là, et donc on décrit bien que, en fin de compte, les constructeurs se retiraient un petit peu et il fallait bien remplacer parce que leur but c'était de vendre des motos, c'était pas forcément de faire de la compétition. Alors ils venaient, repartaient. Je pense qu'il y a eu quand même une constante chez Honda un peu. Hein.
Oui, moi je suis arrivé en début 82 au moment où Honda revenait. Et de façon paradoxale, revenait avec un 2-temps. C'était la fameuse 500 NS début 82, 3 cylindres 2-temps avec laquelle Spencer sera champion du monde l'année suivante. Alors qu'il n'était pas là depuis un moment. En tout cas, ils avaient échoué avec ce qu'on appelait la MR 500, qui était la moto à piston ovale. Et oui, comme tu dis, il y a eu des allers-retours, il s'engage en compétition, puis il se retire, c'est vu qu'il a fait, puis ils reviennent, etc., etc. Oui, mais ça a toujours été, avec des moyens différents, mais surtout à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup de privés, il y avait très peu de motos officielles. Donc on allait acheter sa moto, Jean-Louis Tournade est le dernier, en 82, allait acheter sa moto, sa 250e ATZ chez son concessionnaire Froment Moto en Auvergne, et il est champion du monde avec une moto qu'il a payée 35 000 francs.
Oui, et après ça va se professionnaliser et ça va changer énormément. Et donc
c'est
on va
ça.
En parler un petit peu dans la troisième partie, puis on parlera aussi un petit peu des projets, des changements, des gros changements peut-être. Tu pourras nous dire deux mots si tu sais un peu des choses sur les gros changements qu'il va y avoir aussi en GP là, l'année prochaine.
D'accord, pas de problème, bien sûr.
Allez, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Kikinkou, le magazine de la moto, et on est toujours au téléphone avec Bruno Gillet, le célèbre Bruno Gillet, journaliste pour Young Timer et surtout écrivain, n'est-ce pas, mon cher Yves?
Oui. Et Bruno, tu es là?
Toujours là.
Voilà. Donc, bah écoute, on va un peu dérouler. Je pense qu'on pourrait passer une heure tranquille, hein, mais voilà, on est un peu limité. Mais je pense que bon, tu vas revenir. J'espère, du moins.
Il y a toujours matière. C'est pour ça que c'est bien de lire le livre, parce que finalement, on voit que la matière est infinie. Et pour tout dire, j'ai sorti les deux tomes, mais je travaille déjà sur le tome 3 de cette série qui s'appelle Dans les coulisses de la course moto.
Donc on voit aussi au fur et à mesure des anecdotes cette évolution des, quand on parlait des grands prix, donc avec les investisseurs qui viennent, les belles écuries et les belles aventures des écuries indépendantes aussi, hein, dont bien Tech sûr. 3, bon, tu nous as dit que tu étais proche d'eux. Allez, un petit, t'as pas un petit mot sur Guy Coulon? Moi je voulais savoir. T'as Hervé Poncharal qui en parle un petit peu, j'ai vu un petit peu les podcasts, et puis qui en parle un petit peu comme il lui faisait peur, il a dit c'était un sorcier. Alors je voulais savoir, c'est un sorcier ou un magicien? C'est Merlin l'Enchanteur ou bien...
C'était un ours. Moi, je l'ai connu début des années 80, c'est un Breton, hein, il vient de Mayenne, et passionné par la compétition, du matin au soir, et ça n'a pas changé dans son atelier. Et les journalistes, ils voulaient pas en entendre parler. Pour lui, c'était plus une gêne qu'autre chose. C'était superflu. Lui, c'était, voilà. Il était vraiment en mission. Et alors, il s'est adouci avec le temps, mais au début, c'était pas simple du tout de créer un contact avec lui. Maintenant, c'est devenu un bon ami. On se voit très souvent. Donc voilà. Oui, c'était comme ça. Il y avait aussi ce genre de personnage. Et Hervé dit quelque chose. Hervé Poncharal dit quelque chose qui est très vrai. C'est qu'il dit, j'ai trouvé la personne idéale pour parce qu'on se complète. C'est-à-dire, Hervé Poncharal, il dit, moi, tu me donnes un tournevis, je me blesse. Mais alors que, et Guy Coulon, à l'inverse, comme je viens d'expliquer, c'est pas lui qui va aller chercher des sponsors, qui va faire des relations publiques. C'était un ours. Alors, ça s'est bien arrangé maintenant. Enfin, maintenant, il est d'ailleurs en retraite. Mais, il a toujours été, d'abord, le nez dans le guidon, c'est-à-dire, la clé à molette à la main.
Voilà, exactement. Donc on voit cette évolution des écuries en même temps, et puis on voit ça à travers toutes les anecdotes qui sont liées un peu avec Kenny Robin. Je crois que c'était un bon client pour toi, il t'a bien fourni des pas mal de choses. Ça s'est fait comment, ça?
Eh ben, Kenny, il avait une grosse qualité, c'est qu'il adorait le vin rouge français. Donc quand il y avait... Quand il y avait en fin de soirée ou à une présentation de presse, quoi, on se retrouvait toujours à deux ou trois à finir les bouteilles. Où je viens d'une grande soirée chez Michelin, puis Michelin, il s'arrive de servir du très, très, très bon vin, là, pour présenter le nouveau pneu radial, le ci, le là. Et quand il avait deux verres dans le nez, comme tout le monde, il était bavard, et puis il racontait tout un tas de choses. Donc on a eu droit à des moments d'échange qui étaient vraiment intéressants, parce que lui aussi, c'était quand il est arrivé, il n'était pas facile du tout. Robert, ça, on l'appelait une main jaune, il était là, il avait sa visière fumée, fermée, impénétrable, et le seul truc qu'il disait, c'est « US is the best », voilà, les Américains sont les meilleurs. Alors là, tu dis, bah, ça va faire léger pour mon reportage. mais heureusement, on pouvait trinquer un petit coup le soir.
D'accord, donc tu avances, et bah, moi, moi j'étais un peu fan, hein, de, voilà, donc, entre Barry Sheen et Kenny Roberts, j'étais un peu fan, j'avoue. Ça a changé le style de conduite aussi, il en parle.
Absolument. Déhanché, notamment. Ouais.
Le déhanché, le genou qui... Oui, bah là, on montre la... C'est vrai qu'on a, on a notre calendrier 2026, tu vois, la publication du calendrier, ouais. Et puis la première illustration. Et ben, tu vois la moto de Kenny Roberts, et alors à côté, c'est qui? C'est Ponce.
Ouais, c'est Ponce.
C'est Ponce à côté, hein, c'est ça, hein,
ouais.
Ou pas?
Ouais, c'est un Grand Prix.
Non, voilà. Je sais pas, parce que Ponce, il est arrivé plus tard, non?
Non, ils étaient là ensemble, ouais. Notamment en 750, en 500, oui.
Donc, c'est la première page de notre calendrier. Bon, là, il y a là qui me montre le calendrier. Il faudrait qu'on t'en envoie des calendriers. donc il arrive sur ce déhanché. Et puis, moi, j'ai bien aimé, c'est l'histoire qu'il raconte un petit peu avec les sliders, quoi. C'est assez rigolo.
C'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, il a été le premier à vraiment... déhancher autant et surtout sortir le genou et commencer à faire toucher le genou en virage, donc c'était un vrai problème. Et les pilotes, même, alors ça c'était dans les années 70, même quand j'ai commencé en 82 les reportages, les pilotes mettaient au niveau du genou des écrans de casque, intégral, tenus avec du scotch américain, qui d'ailleurs des fois se détachait à mi-course, pour pouvoir avoir un peu un appui et pouvoir frôler le sol et que ça continue à bien glisser. Et c'est ensuite que des marques comme Benez ont créé les premiers sliders.
Exactement.
Pour Roberts d'ailleurs.
Oui, bah je ne savais pas que c'était Denez qui avait créé les premiers sliders aussi. Donc, tu vois, on apprend. Donc, voilà. Donc, ça évolue. Et puis derrière, eh ben, y a encore l'évolution des choses, des écuries. Et c'était d'avoir les mêmes motos que... Et ça durait jusque très récemment. D'avoir les mêmes motos pour tout le monde. Et on voit bien l'évolution qu'il y a pu y avoir, quoi. Les Japonais...
En fait, ce qu'ils ont... Oui, vas-y, je te laisse finir.
Vas-y, je te laisse finir. Non, je te laisse parler plutôt.
D'accord. En fait, ce qui se passait, c'est qu'ils se sont rendus compte à un moment que c'était quand même le pilote le plus riche, celui qui avait trouvé le plus de sponsors, qui avait la meilleure machine. Il pouvait en avoir deux. Il pouvait en avoir... Et même se payer les meilleurs pneus, les meilleures pièces, etc. Donc, au moins pour les catégories on va dire 125-250 à l'époque, correspond à la Moto 3, à la Moto 2 maintenant, ils ont commencé à vouloir réguler un peu. Et notamment, quand la Moto 2 est arrivée, on a fait le moteur unique, essence unique, pneumatique unique, la même tirée au sort, la même chose pour tout le monde, de façon à ce que ce soit des catégories qui permettent de révéler des vrais talents et pas seulement qui permettent à celui qui a le plus de budget ou l'usine qui a le plus de budget d'ailleurs de s'imposer. Et c'est comme ça que ça s'est articulé en fait.
D'accord. Et là apparemment maintenant il y a encore une autre évolution qui fait que en fin de compte Tech 3 va s'arrêter, et va s'arrêter aussi parce qu'il y a l'âge aussi qui est là, je pense. Hein. Ils sont...
Alors Tech 3 ne s'arrête pas, mais a été revendu. Oui.
Il a été revendu. Et à qui il a été revendu en fin de compte? C'est un fonds d'investissement, c'est ça?
C'est un fonds d'investissement qui est de nationalité singapourienne où il y a 7 investisseurs. Sont des gens déjà connus dans la Formule 1 qui ont donc repris à la fois le nom Tech 3, les locaux non parce qu'ils appartiennent à Hervé mais ils seront loués, les camions qui ont repris tout le personnel. Il faut savoir que Tech 3 en pleine saison ils sont pas loin de 50 quand même, hein. Alors pas tous salariés, il y a aussi des gens qui bossent au coup par coup, et puis la place sur la grille, parce que c'est ça en fait qui a de la valeur, c'est la place, le fait d'avoir deux places sur la grille MotoGP, et ça a été défini aussi par l'IRTA, qui est l'association des teams, mais là on rentre un peu dans l'administratif, de façon à stabiliser un peu, parce que Hervé disait, si on n'est pas sûr d'avoir des places, comment tu veux qu'on aille démarcher des sponsors?
Exactement, oui, ça c'est sûr. Donc il y a ça qui est... Donc ça va être une page de tournée, si je comprends bien, un petit peu.
Alors, pour Tech 3, oui, parce qu'Hervé avait toujours dû... Hervé, il est de ma génération, il est né en 57, il avait toujours dit à 70 ans que j'ai quand même arrêté, et qui aussi, qui est un tout petit peu plus âgé, Guy Coulon. Donc pour Tech 3, une page se tourne, et puis on va entrer là, dans pas cette année, mais l'année prochaine, une nouvelle réglementation, où là, ils vont baisser la cylindrée des MotoGP de 1000 à 850 cm3, et d'autres types de réglementations aussi, un peu restrictives, comme par exemple la limitation de la taille des winglets, comme on dit en anglais, des aéros, des comment on appelle
oui,
ça,
toutes
des,
ces, ouais.
Le
système aérodynamique
des ailerons, voilà, oui. Des ailerons en français, pardon, qui va être limité aussi, de façon un peu à réguler, quoi, parce que sinon, si les constructeurs sont obligés de dépenser des millions d'euros tout l'hiver dans les souffleries aux quatre coins du monde. À un moment, c'est encore le constructeur qui a le plus d'argent, qui consacre le plus d'argent, qui a le plus gros sponsor, qui va avoir la meilleure machine. Et c'est pas l'idée. L'idée, c'est que les pilotes puissent révéler leur talent et qu'il puisse y avoir des courses qui sont serrées. Parce que on se rend pas compte, mais à l'époque, des Ago, des gens comme ça, ils gagnaient des fois avec un tour d'avance. On a oublié ça. Alors oui. Aujourd'hui, maintenant, on a envie d'avoir du spectacle à la télévision. Donc, dès qu'un pilote a en tête à 3 secondes d'avance, on dit bon, la course n'était pas très rigolote. Mais on a complètement oublié comment c'était à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des pilotes qui se prenaient un tour, et puis il y avait des différences bien plus énormes qu'aujourd'hui.
C'est sûr. Donc il y avait des choses comme ça, et il y avait aussi, par exemple, on apprend aussi ça, on le savait un petit peu aussi pour les gens, les anciens, c'est que par exemple au Bol d'Or, il y avait qu'un seul pilote, quoi. qui faisait
alors,
24
au début,
heures.
Alors, oui, il n'y avait qu'un seul pilote. Après, il y en a eu deux, après, il y en a eu trois, maintenant, il y en a même quatre. Mais c'est ça, quand j'ai commencé, il y avait que deux pilotes. Hein. Alors, les motos étaient plus lourdes, mais elles étaient quand même moins puissantes, elles freinaient moins fort. C'est ça aussi qui fatigue le pilote. Donc, à deux pilotes, ça se jouait encore à peu près. À partir du moment où les motos, même d'endurance, sont devenues des vraies motos de course, quoi. Vraiment qui font des chronos très impressionnants. D'ailleurs, la preuve, c'est que les dérivés Superbike font des courses de vitesse. La fatigue du pilote était terrible. Et c'est un peu ce qui se passe en MotoGP. C'est que même les top pilotes disent, on est arrivé à la limite de la résistance humaine, quoi. C'est-à-dire, quand on arrive à 360 à l'heure et qu'on freine au dernier carat parce que on a des winglets, non, alors encore une fois pas des winglets des ailerons qui plaquent la moto au sol, donc ça a reculé le point de freinage. C'est un gros problème parce que le corps il encaisse tellement qu'il ne peut plus, et en plus on arrive encore plus vite, ce qui veut dire qu'il faut des dégagements en cas de chute qui soient d'autant plus
importants,
vastes. Donc on se mord la queue, donc il faut effectivement faire évoluer la réglementation, et c'est ce qui va être fait.
D'accord. Donc, écoute, avec toutes ces anecdotes, on va voyager donc des années 70, et même tu parles encore des anciens avec les Monneret, les gens.
Oui,
Philippe.
Je parle même de Jean-Pierre Beltoise, que tous les fans de moto connaissent quand même, parce qu'il faut savoir qu'il a commencé par la moto et qu'il a été champion de France de moto, et qu'il raconte quelque chose que j'avais été faire une interview chez lui à. Il est décédé maintenant, à Neuilly. À l'époque, pour MotoJournal, j'avais pas tout mis dans l'interview, parce qu'on fait toujours une heure et demie d'interview, et puis finalement, dans le journal, on en passe 40 minutes. Donc, tout un tas de petites notes comme ça que j'ai ressorties, et où il raconte tout un tas de choses de l'époque que j'ai ressorties dans ce livre, Dans les coulisses de la course moto.
Voilà, je rappelle le titre, hein, Dans les coulisses de la course moto par Bruno Gillet, tome 1 et tome 2, aux éditions Amazon.
Sur Amazon, c'est ça, sur le site Amazon. Le tome 1 est rouge, le tome 2 est
blanc. Et imprimé à Brétigny-sur-Orge.
Exactement.
Absolument.
Voilà. Et on attend donc le tome 3. Et il y a aussi autre chose, hein, c'est ce que je vais le dire aussi en vitesse, hein, si vous me laissez quelques secondes, c'est que Bruno, il a écrit d'autres livres aussi. Et donc, Les Bonnes Nouvelles sont rares.
C'est un recueil de nouvelles. Donc, j'ai écrit un recueil de nouvelles, j'ai écrit aussi des textes de chansons, je suis à la SACEM.
Donc là, c'est donc, l'écrivain qui vient.
Oui, c'est un grand mot, écrivain, mais on essaie. En tout cas, bravo à vous, parce que cette radio lilloise, elle est connue des motards dans la France entière, peut-être même dans toute la francophonie. Et moi, ça fait des décennies que j'en entends parler. Donc, merci de m'avoir invité, et c'est toujours passionnant.
J'espère se voir en direct un jour sur place. Allez.
Merci Bruno.
Avec
je te remercie
plaisir.
Beaucoup.
Bravo à vous.
Au revoir.
Ciao.
Merci beaucoup.
Au revoir. We'll be right back.
on voit qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission, hein, papate, la musique là ça déménage, hein. C'est normal, il faut bien se réveiller, on est bientôt midi et demi là, dimanche matin, là, c'est bon, hein. Vous êtes toujours sur Radio Campus avec Kikinkou et c'est dynamique. Ben maintenant on va faire de la moto. Eh ouais, et pas n'importe quelle moto. Donc c'est l'établissement Fuel Motors qui m'a prêté un 900 Vosges. Alors Vosges, je sais pas si vous connaissez, c'est une marque chinoise.
Bah, on ne saurait pas le dire au nom, hein, c'est à consonance anglaise, allemande.
Ouais, c'est sûr. Ouais.
Ils le cachent.
Ouais, de toute façon, le but, c'est d'exporter. Donc forcément, ils vont prendre un nom qui peut être compatible avec...
C'est du camouflage.
Ouais, voilà.
Oui, oui.
avec plusieurs langues. Quoi. Et d'ailleurs, alors pourquoi la 900 Vosges? Parce que c'est une copie de la BM 800 et 900 GS. En fait, c'est le même moteur parce que c'est la maison mère de Vosges, le groupe chinois Longsin, qui fabrique le moteur et qu'on trouve dans la 900 GS et qu'on trouve également dans cette 900 Vosges. Mais ils ne sont pas arrêtés là. Il n'y a pas que le moteur. Il y a le cadre aussi, le bras oscillant. Il y a les commodos, il y a l'écran TFT et tout l'habillage qui va avec. Enfin, en fait, c'est exactement c'est la même moto, quoi, si tu veux. Donc, je trouvais ça intéressant d'essayer. J'avais jamais essayé, hein, des chinoiseries, pardon, excusez-moi, de motos chinoises. Et je trouve que, déjà, je la trouve belle parce qu'elle existe en bleu et en noir. En noir avec la fourche anodisée or et les jantes également. Ça, moi, je trouve que ça pète bien, hein, ça claque bien. Elle a les codes esthétiques des motos que tu trouves partout chez nous en Europe, quoi, hein, avec feu full LED, le bec de canard, parce qu'effectivement c'est un trail, ça j'ai peut-être pas dit. Voilà, le bec de canard et tout, enfin voilà, quoi, vraiment les trucs qu'il faut. Mais ça va plus loin parce qu'il y a vraiment, par exemple, le pack aventure complet fourni de série. Donc il y a une bulle qui est réglable à la main, il y a les protège-mains, il y a les parcs-artères, il y a les feux additionnels et il y a porte-paquet. Et il y a en plus une béquille centrale et latérale. Alors que chez tous les autres conducteurs, la béquille centrale, c'est une option. Tu vois. Donc là, tu l'as d'origine. En plus, alors, la hauteur de selle, c'est 825. Bah, c'est un trail, en fait. Donc moi, ça va, j'ai les pieds par terre. Pour moi, c'est pas trop haut. Quoi. C'est un standard. Le poste de pilotage, je te disais tout à l'heure, hein, c'est un écran couleur TFT 7 pouces. Tu vois, une tablette, en fait, déjà. Quoi, si tu veux. Y a pas mal d'infos, j'avoue. Il m'a fallu un peu de temps pour me balader dans les différents boutons, les menus, voilà. Donc, bien sûr, il est connecté Bluetooth, hein, avec ton téléphone pour pouvoir, et ça fait GPS, bien entendu. T'as aussi donc la jauge à essence, la pression des pneumatiques, la température extérieure et intérieure aussi d'ailleurs. Tu as aussi une prise 12 volts, une prise USB-A et USB-C carrément, et un système qui s'appelle Keyless pour garder la clé dans ta poche.
Alors,
ça, j'aime moins bien. J'aime moins bien parce d'accord. qu'une fois, ça m'est arrivé. J'ai fait tomber la clé en roulant. Alors, la moto continue de rouler, sauf qu'une fois que tu t'arrêtes, tu ne peux plus redémarrer forcément puisque ça ne communique plus. Quoi.
Exactement.
Tu voulais dire,
Oui, je disais, avant de l'enfourcher, déjà, elle te séduisait bien.
C'était la première fois que j'enfourchais une chinoise. C'est ça que tu veux dire.
C'est scabreux.
On parlait de moto. On parlait de moto. Mais ça s'arrête pas là. En plus, tu as les poignées chauffantes et tu as la selle chauffante. Donc sur le commodo gauche, tu as un petit bouton de l'autre côté du commodo, il faut se pencher un petit peu. Et tu as un bouton pour les poignées chauffantes et un bouton pour la selle chauffante. Pas beau ça ?
Après avoir entendu des anecdotes sur et qui restitue l'histoire même de la moto, c'est vrai qu'il y a une évolution. Il y a quelques temps, la selle chauffante, on aura entendu des grands cris en disant « Mais c'est quoi cette hérésie ?»
Non mais normalement, ça ne provoque pas des morues, donc c'est bon. Quoi, non, hein,
c'est tout juste, si tu allais avec ce type de moto-là, une hivernale,
ça brûle. Hein. Apparemment, ça brûle bien. Ouais.
Il ne faudrait pas en dire en plus que c'est chinois.
C'est chinois. Alors, c'est chinois. Les moteurs, c'est exactement les mêmes moulins que
GS,
C'est aussi le même moulin que ta moto, Patricia. C'est exactement le même moteur. Bon, toi, tu as en 850. Moi, j'ai une 850 pareil.
Et on fait en 800 et en 900.
Alors, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'apparemment, Sur ce type de moteur, enfin moi tu connais ma moto, ça fait un bout de temps que je roule avec. C'est les vibrations qui sont un peu embêtantes.
Ah bah,
par contre, alors est-ce que j'ai su qu'ils avaient fait évoluer un petit peu les biellettes d'équilibrage et tout ça. Est-ce que ça a toujours les mêmes vibrations?
Ah non, là t'as plus du tout de vibrations. T'as 4 modes moteurs. Donc là c'est un 95 chevaux, bicylindre 95 chevaux quand même. Et t'as 4 modes moteurs. Alors t'as le mode route. Qui est bien au début pour prendre tes marques si tu veux sur la moto, parce que dès que tu montes dessus c'est comme si tu l'avais toujours côtoyé quoi, tu vois, ça se conduit facilement, enfin naturellement, instinctivement, mais avec les modes moteurs, donc avec le mode route, ça va, enfin ça fait le job, mais je trouvais que c'était un peu fade. Par contre dès que tu mets en mode sport, alors là ça devient quasiment violent quoi, tu vois. Et moi j'aime bien quand ça envoie du bois, et ça c'est ça qui m'a le plus marqué. Par contre donc parce que ça tient bien la route aussi, c'est une fourche Kayaba, c'est aussi un amortisseur arrière Kayaba, c'est du Brembo à l'avant et à l'arrière avec une centrale Bosch pour l'ABS. Je veux dire, ça freine super bien et ça tient super bien, et je te dis en mode sport là ça cartonne, mais alors ça envoie du bois grave. Mais ce qui est marrant aussi c'est que t'as une roue de 21 pouces à l'avant parce que c'est un trail, et du coup t'as un effet d'inertie un peu, enfin c'est le trail quoi, celui qui fait ça, et donc du coup au début c'est un peu déroutant quand t'es habitué comme nous à rouler sur des routières si tu veux, donc au début dans les courbes ça, c'est un peu déroutant, mais ils t'ont mis des pneus Pirelli qui tiennent super bien le pavé. En fait c'est un peu c'est une machine pour montrer notamment aux Européens qui savent aussi faire des motos qui tiennent la route, qui poussent bien, qui tiennent bien. C'est un peu une vitrine en fait hein, de leur savoir-faire. D'ailleurs, bon, on l'a bien vu hein, chez BM, ils reprennent la plupart des composants, donc c'est pas pour rien. Et la différence, c'est que chez BM, il faut compter 18 000 euros avec les options, alors que là, toutes les options sont incluses dans la machine, dans le prix de vente, et elle est à 11 000.
Ouais.
T'as même un capteur d'angle mort, une lumière bleue qui s'affiche quand pour si jamais t'as un obstacle, et t'as même une caméra qui filme la route devant.
J'ai vu ça. T'as la caméra qui filme devant.
En cas d'accident, par exemple, ouais. Si t'as un litige, etc. Quoi. Enfin, c'est une bonne machine. Allez l'essayer, vous verrez. Chez Fuel Motors, à Seclin.
Et le détecteur d'angle mort.
Voilà, c'est ce que je disais, la petite lumière bleue qui s'allume. Voilà, donc j'entends, là, c'est déjà le générique, c'est déjà la fin. Bah, on a passé un bon moment ensemble, ouais, hein, papa. C'était
merveilleux.
Sympa.
Super sympa.
Moi, ça m'a donné envie de faire du chemin. J'aime bien les chemins, justement, en plus. Quoi.
Voilà, avec l'équipement.
Voilà. ça m'a donné envie de lire les coulisses de la course moto. Parce
moi
qu'il
aussi.
Y a
hein.
Énormément d'anecdotes, c'est sympa. Bien. En plus, on le trouve sur Amazon à 12 euros, quoi, c'est raisonnable.
Mais je crois que si la niche est un peu immobilisée, on pense à toi, la niche. Hein. je lui passerai, comme ça, pour s'occuper un peu.
Okay, c'est cool.
Et si vous aimez le trail, en plus, avec l'accent micro de verre, c'est génial.
Ouais, c'est voilà. On se retrouve. Dimanche prochain, c'est avec nos motards engagés, hein, qui notamment la FFMC et notre correspondant Motomag. Et je terminerai en disant bravo à notre technicien Laurent pour cette programmation aux petits oignons. Merci Laurent.
Merci Laurent.